Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très, très importante concernant la rédemption. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 3 de la vocation d'Abraham à Moïse. Premièrement, Dieu alors jugea bon de mettre à part du reste de l'humanité l'homme duquel Christ devait descendre, afin que son Église pût être préservée dans sa famille et dans sa postérité jusqu'à ce moment-là. Il appela Abraham hors de son pays, avec toute sa parenté, pour aller dans un pays éloigné que Dieu devait lui montrer. Il le conduisit d'abord d'Ur, de Ur des Chaldéens à Charan, et de là dans le pays de Canaan. Il a déjà été observé que la corruption du monde par l'idolâtrie était devenue générale à cette époque-là. L'humanité fut presque entièrement envahie par, on peut dire, une dégénérance morale. Et c'est pourquoi Dieu jugea nécessaire, afin de préserver la vraie religion dans le monde, qu'une famille pouvait être séparée de toutes les autres, de peur que l'Église entière ne fût entraînée dans l'apostasie, car le pays même d'Abraham, presque en majorité, avait apostasié, et sans quelques interventions extraordinaires de la Providence, la vraie religion semblait être destinée à disparaître complètement dans une génération ou deux. Et c'est pourquoi Dieu appela Abraham. Il l'appela dans la famille de qui il se proposait de conserver la vraie religion hors de son pays et du milieu de ses parents pour le conduire dans un pays éloigné où ses descendants pouvaient former une nation séparée des autres. Par ce moyen, la vraie religion pourrait être préservée dans son sein, tandis que l'humanité serait enfoncée dans le paganisme. Le pays des Chaldéens, d'où Abraham fut appelé, comprenait les environs de Babel ou Babylone, qui était la capitale de la Chaldée. Ce fut dans ce pays que l'idolâtrie avait pris, on peut dire, naissance, et que Babel et la Chaldée ont été les principaux sièges du culte des idoles, qui de là se seraient répandus chez les autres nations. C'est pourquoi le pays des Chaldéens est appelé dans les Saintes Écritures un pays d'images taillées. L'épée est sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, sur ses principaux et sur ses sages. La sécheresse sera sur ses eaux, et elles tariront, parce que c'est un pays d'images taillées, et ils agiront en insensés à l'égard de leur Dieu qui les épouvante. Jérémie chapitre 50, versets 35 et 38. Donc, Dieu appelle Abraham hors de ce pays idolâtre pour le conduire très loin. Et lorsqu'il est arrivé dans ce pays lointain, il ne lui donne pas l'héritage ni de quoi poser le pied, mais il y demeure comme un étranger et un voyageur, afin que lui et sa famille puisse rester séparé de tout le reste du monde. Avant le déluge, le moyen auquel Dieu avait recours pour la protéger fut de détruire les méchants par le déluge et de la sauver dans l'arche. Mais à l'époque dont nous parlons, Dieu a eu recours à un autre moyen. Il ne détruisit plus pas les méchants comme avant. Il ne sauva pas Abraham, sa femme et Lot, mais il les a appelés dans un pays étranger pour y vivre totalement séparés du reste du monde. Ce fait nouveau occupe une grande place dans le développement de l'œuvre de la rédemption. Cela se passa environ vers le milieu de la période séparant la chute de la venue de Christ, environ 2000 ans avant l'apparition du grand rédempteur. La vocation d'Abraham, un des ancêtres de Christ, assura la préservation de l'Église dans le monde jusqu'au moment de sa venue, car comme le monde était tombé dans l'idolâtrie, il était devenu nécessaire que la semence de la femme en fût séparée. Et de plus, il était indispensable qu'il y avait, on peut dire, une nation particulière qui était mise à part du reste du monde afin de recevoir les types et les prophéties de Christ qui allaient être données pour préparer la voie à sa venue afin que les oracles de Dieu pouvaient leur être confiés et pour que, par ce moyen-là, l'histoire des grandes œuvres de Dieu dans sa création et dans sa providence avait pu être conservée et que Christ pouvait être ainsi naître dans cette nation. De sorte que, de ce point-là, la lumière de l'Évangile pouvait reluire sur le reste de ce monde. Ces fins n'auraient pas pu être atteintes si le peuple de Dieu, durant ces 2000 ans, était resté mêlé au monde païen. Abraham est représenté dans l'Écriture sainte comme étant le père de toute l'Église, le père de tous les croyants, comme une racine d'où sortit l'Église visible, semblable à un arbre, distinct de tous les autres. Christ fut donc la branche juste de cet arbre après sa venue. Les branches naturelles en furent retranchées pour faire place aux gentils, c'est-à-dire aux peuplades non-croyantes. De sorte que Abraham reste toujours, par le moyen de Christ, le père, la racine de l'Église. Et c'est toujours ce même arbre qui, si petit au jour d'Abraham, a aujourd'hui répandu ses branches sur une grande portion du monde qui le couvrira entièrement au temps convenable pour être transporté à la fin du monde de cette terre dans le paradis de Dieu. Deuxièmement, tout cela a été accompagné d'une révélation plus spéciale et plus complète qu'auparavant, en même temps que d'une confirmation de l'alliance de grâce. Il y avait eu déjà deux proclamations ou confirmations spéciales et solennelles de cette alliance. L'une avait été faite à nos premiers parents et immédiatement après la chute, l'autre à Noé et à sa famille bientôt après le déluge Et maintenant, une troisième a lieu à l'occasion de la vocation d'Abraham. Il fut alors révélé à Abraham non seulement que Christ viendrait, mais qu'il naîtrait de sa postérité, et Dieu promit que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui, et Dieu réitéra, il a refait sa promesse qu'il avait déjà eu donnée, et la première fut faite quand il a appelé Abraham pour la première fois. Et « Je te ferai, est-il dit, je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras béni. » Genèse chapitre 12, verset 2. Cette même promesse fut renouvelée au patriarche après son arrivée dans le pays de Canaan. Chapitre 13, verset 14. Quand il fut de retour de la défaite des rois, chapitre 15, versets 5 et 6, et pour la quatrième fois, après qu'il eut offert Isaac en sacrifice, chapitre 22, versets 16 à 18. En renouvelant l'alliance de grâce avec Abraham, Dieu révéla plus clairement qu'auparavant certains détails, non seulement que Christ descendrait de la race d'Abraham, mais aussi la vocation des nations, que toutes les nations de la terre entreraient dans l'Église, que toutes les familles de la terre seraient bénies, et de plus, il fut clairement révélé que la foi serait la condition de l'alliance de grâce. Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. Et il est remarqué dans le Nouveau Testament que pour cette raison, Abraham a été appelé le père des croyants, en même temps que l'alliance de grâce était plus complètement révélée. Elle était confirmée par de nouveaux signes et accompagnée d'autres garanties, telles que, par exemple, la circoncision, qui était un sceau de l'alliance de grâce, ainsi qu'on le voit par son institution, selon la Genèse chapitre 17. Parlant d'Abraham, l'apôtre Paul dit « Il reçut le signe de la circoncision pour un sceau de la justice de la foi. » La famille d'Abraham et sa postérité devaient donc rester séparés du reste du monde jusqu'à la venue de Christ, et ce sacrement était le principal mur de séparation. En outre, Dieu donna à Abraham une garantie remarquable de l'accomplissement de la promesse qu'il lui avait faite en le faisant triompher de Kedor Lahomer et des rois qui étaient avec lui. Kedor Lahomer paraît avoir régné sur une grande partie du monde de ce temps-là, et quoique il eût son siège à Élam, peut-être à un millier de milles du pays de Canaan, cependant, son empire s'étendait sur quelques portions du pays de Canaan, comme on le voit par le chapitre 14, versets 4 à 7. Des savants ont supposé qu'il était le roi de l'empire assyrien de ces jours-là, qui avait commencé à Babylone sous le règne de Nimrod. Et comme les rois de ce temps-là tenaient à honorer de bâtir carrément des villes pour en faire le siège de leur empire, selon la Genèse chapitre 10, versets 10 à 12, on a supposé qu'ils s'étaient éloignés et avaient bâti une ville en Élam et en avait fait son siège. Et pourtant, il eut beau avoir un grand empire et venir avec une grande armée, Abraham, n'ayant avec lui que les serviteurs nés dans sa maison, les conquit miraculeusement et les soumit. Ainsi, il reçut de Dieu une garantie de ce qui lui avait été promis, savoir que Christ, sa semence, devait remporter la victoire sur les nations de la terre, ce qui le mettait en possession des portes de ses ennemis. Il en est parlé très clairement dans le 41e chapitre d'Ésaïe, où est prédit la victoire glorieuse que dans l'avenir, l'Église doit remporter sur les nations du monde. Il est parlé de cette victoire d'Abraham comme étant d'une garantie et d'un gage de la victoire de l'Église. Ésaïe, chapitre 41, versets 2 et 3. Or, Abraham reçut une autre confirmation très remarquable de l'alliance de grâce. Lorsque, à son retour de la défaite des rois, Melchizedek, le fameux roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, ce grand type de Christ, est venu à sa rencontre et le bénit et lui apporta du pain et du vin. Le pain et le vin représentaient les mêmes bénédictions de l'alliance de grâce qui sont représentées dans la Sainte Cène et le fait de la venue de Melchizedek à sa rencontre avec un pareil sceau de l'alliance de grâce à l'occasion de cette victoire montre que c'était une garantie que Dieu accomplirait cette même alliance. Genèse chapitre 14 versets 19 et 20. La vision qu'il eut pendant un profond sommeil, du four fumant et du brandon de feu qui passa entre les parties du sacrifice, fut une autre confirmation de l'alliance de grâce. Le sacrifice figurait celui de Christ, le four fumant qui passa d'abord entre les parties du sacrifice, cela figurait les souffrances de Christ. Mais le brandon qui suivit et qui brille d'un grand éclat figure la gloire qui suivit les souffrances du Christ dont elle fut le fruit. Comme c'est assez compliqué à comprendre pour le premier venu, je voudrais répéter ce passage pour que vous ayez le temps de l'assimiler. Donc, la vision que Abraham a eue pendant un profond sommeil du four fumant et du brandon de feu qui passa entre les parties du sacrifice, fut, ou si vous voulez, était une autre confirmation de l'alliance de grâce. Le sacrifice figurait celui de Christ, le four fumant, qui passa d'abord entre les parties du sacrifice. Cela figurait les souffrances de Christ. Mais le brandon qui suivit et qui brille d'un grand éclat, cela figure la gloire qui suivit les souffrances de Christ dont elle fut le fruit. Dieu donna donc à Abraham une autre garantie bien remarquable de l'accomplissement de son alliance de grâce, c'est-à-dire en lui accordant dans sa vieillesse. cet enfant duquel Christ devait descendre. Hébreux, chapitre 11, versets 11 et 12, et notez également Romains, chapitre 4, verset 18. Et en sauvant Isaac, rappelez-vous, alors qu'il était attaché sur le bois du sacrifice, pour être mis à mort. Ainsi fut confirmée la foi d'Abraham en la promesse que Dieu lui avait faite, touchant Christ, qui serait de la postérité d'Isaac. Ce fait fut aussi une représentation de la résurrection de Christ. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Et parce que la chose a eu lieu comme une confirmation de l'alliance de grâce, Dieu renouvela en cette occasion son alliance avec Abraham. Notez Genèse chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi Christ nous déclare: Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir cette mienne journée. Il l'a vue et s'en est réjoui. Saint Jean chapitre 8, verset 56. C'est ainsi que Dieu s'est plu à faire un grand pas à cette œuvre dans laquelle il était engagé depuis le commencement du monde. Troisièmement, ensuite, Dieu préserva les patriarches pendant très longtemps contre les méchants habitants de Canaan et contre tous leurs autres ennemis. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob étaient ceux dont Christ devait descendre. Ils furent alors séparés du monde afin que l'Église pouvait être conservée en leur personne. Par conséquent, en les préservant, il poursuivit son grand plan de rédemption. Il les préserva et empêcha les habitants du pays où ils séjournaient de les détruire. Ce fut là une remarquable dispensation de la providence, car les habitants du pays qui devinrent par la suite encore plus méchants l'étaient déjà beaucoup. Et on le voit par la Genèse, chapitre 15, verset 16. Et en la quatrième génération, ils retournèrent ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. On peut se former une idée de leur iniquité par la grande aversion que Abraham et Isaac ont à ce que leurs fils épousent des filles du pays. Abraham, dans sa vieillesse, n'est pas tranquille avant d'avoir fait jurer à son serviteur qu'il ne prendra pas de femme pour son fils d'entre les filles du pays. Et Isaac et Rebecca sont heureux d'envoyer leur fils Jacob aussi loin que Paddan Aram pour prendre une femme. Et quand Ésaü a épousé quelques filles du pays, il nous est dit qu'elles furent en amertume d'esprit à Isaac et à Rebecca. Nous avons encore une autre preuve de leur grande méchanceté dans Sodome et Gomorre. Adma et Tseboïm, quelques-unes des villes de Canaan, probablement d'entre les plus méchantes, et renfermant vraisemblablement les ennemis les plus implacables de ces saints hommes, leur vie sainte était une condamnation continuelle de la méchanceté qui prévalait autour d'eux. ils doivent leur avoir reproché souvent leur iniquité, comme nous voyons que Lot l'a fait à Sodome. Il nous est dit qu'il affligeait tous les jours son âme juste à cause de leurs méchantes actions, et il fut pour eux un prédicateur de la justice. Ils étaient d'autant plus exposés à leurs attaques qu'ils étaient étrangers et qu'ils voyageaient dans le pays sans posséder aucun héritage. Ils s'écrièrent tous : cet homme seul est venu pour habiter ici et il voudrait nous gouverner. Et ils le menacèrent de ce qu'il se proposait de lui faire. Mais Dieu préserva miraculeusement au milieu d'eux Abraham et Lot, Isaac et Jacob et toute leur famille, bien qu'ils fussent très peu nombreux et qu'ils avaient pu être promptement détruits, car comme ils étaient peu nombreux, c'était facile aux autres de les détruire d'un seul coup. Ce fait est représenté comme étant un exemple admirable de la miséricorde de Dieu envers son Église. Encore qu'ils fussent un tout petit nombre de gens et qu'ils y séjournèrent peu de temps comme étrangers, car ils allaient de nation en nation et d'un royaume vers un autre peuple. Dieu avait dit à tous : ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Psaume 55, versets 12 à 15. Dieu sauva donc miraculeusement Job et sa famille en retenant ces hommes irrités par une frayeur inaccoutumée qui s'empara tout à coup d'eux. Puis ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes des environs, tellement qu'ils ne poursuivirent point les enfants de Jacob. Genèse chapitre 35, verset 5. Et Dieu les préserva non seulement des Cananéens, mais aussi de tous les autres qui se proposaient de leur nuire. Il sauva donc Jacob et ceux qui l'accompagnaient lorsqu'il fut poursuivi par Laban. Laban, qui était plein de colère et disposé à le surprendre comme un ennemi. Dieu le rencontra et le réprimanda et lui dit : prends garde de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Il le délivre aussi admirablement, on peut bien le dire, de son frère Ésaü. Ésaü qui venait à sa rencontre avec toute une armée, et cela dans l'intention bien arrêtée de le mettre à mort. Comme Dieu, en réponse à sa prière, quand il combattit avec Christ à Péniel, changea admirablement le cœur d'Ésaü, de sorte qu'au lieu de le rencontrer comme un ennemi portant avec lui le carnage et la destruction, il l'aborda en ami et en frère et ne lui faisait aucun mal. Ainsi, au milieu des ennemis et des dangers, fut préservée cette poignée d'hommes, cette petite racine sur laquelle reposait la bénédiction du Rédempteur. C'était quelque chose d'assez semblable à la préservation de l'arche au milieu des tempêtes du déluge. Quatrièmement, le fait qui doit maintenant attiré notre attention, c'est la terrible destruction de Sodome et de Gomorre et des villes environnantes. Il concourut de deux manières à l'avancement de la grande œuvre. Premièrement, cela contribua puissamment à empêcher les habitants du pays de faire du mal aux étrangers que Dieu avait transportés pour séjourner au milieu d'eux. Lot était un de ces étrangers. Il était venu dans le pays avec Abraham et Sodome fut détruite pour avoir manqué de respect à Lot, le prédicateur de la justice. Ils attirèrent sur eux la destruction en faisant une insulte abominable à Lot et aux étrangers qui étaient venus dans sa demeure, c'est-à-dire à ses anges. Rappelez-vous, ces anges qui étaient venus pour le visiter, mais surtout pour le délivrer de là. Ils assiégèrent donc de la manière la plus outrageante la maison de Lot, se disposant à commettre un crime affreux sur ces étrangers et menaçant de faire encore pire à Lot. Mais sur ces entrefaits, Dieu les frappa d'éblouissement, et le matin suivant, la ville et le pays environnant furent engloutis par un terrible orage de feu et de soufre. Cette terrible destruction a eu lieu sous les yeux des autres habitants du pays et sans doute qu'elle frappa leur esprit de crainte et de terreur et leur fit craindre de faire du mal à ces étrangers. Ce fut probablement un des moyens les plus puissants pour les retenir et pour sauver les patriarches. Quand on dit que les habitants du pays ne poursuivirent pas Jacob, bien que provoqués par la mort des gens de Sichem, parce que la terreur de l'Éternel était sur eux, se rappelant la terrible destruction de Sodome et des villes de la plaine qui étaient venues sur elles pour avoir maltraité Lot, ils n'ont pas osé faire du mal à Jacob et à sa famille. L'œuvre de la rédemption ne se développa donc jamais que à la faveur de ce sentiment. Dès le commencement, la loi est employée comme un pédagogue pour amener à Christ. Mais sous l'ancienne alliance, une manifestation extraordinaire, visible, saisissable de la colère de Dieu contre le péché, était plus nécessaire que sous la nouvelle, car depuis Christ, la vie à venir, les souffrances éternelles de l'enfer ont été beaucoup plus clairement révélées et les souffrances de Christ ont admirablement mis en évidence tout ce que la justice de Dieu a de redoutable. Et c'est pourquoi les révélations de Dieu dans ces jours-là étaient toujours accompagnées de circonstances de nature à effrayer. Ainsi quand Dieu apparut sur le mont Sinaï pour donner la loi, ce fut avec des tonnerres et des éclairs, du milieu d'un nuage obscur et avec une voix éclatante de tempête. Or Adam lui-même vécut 930 années pour proclamer les terribles menaces que Dieu avait faites en traitant alliance avec lui, les effrayantes conséquences de la chute et des hommes qui avaient vécu avec Adam vécurent jusqu'au déluge. La destruction du monde par le déluge a eu pour effet de mettre en évidence les terreurs de la loi et de manifester la colère de Dieu contre le péché pour faire sentir l'absolue nécessité de la rédemption. Et il y avait encore, du temps d'Abraham, des hommes qui avaient vu le déluge. Toutefois, à cette époque-là, il était en grande partie oublié, ou si Dieu jugea bon de manifester de nouveau, d'une manière surprenante, sa colère contre le péché, en détruisant ces villes. Et ce fut là la plus frappante image de l'enfer qu'il y a jamais eu. Aussi l'apôtre dit-il qu'elles reçurent la punition du feu éternel. Dieu avait fait pleuvoir sur eux du feu et du soufre, et les fleuves de soufre consumèrent toutes les villes, si bien que les habitants périrent dans les flammes, on peut dire dans les flammes de la colère divine. Ce fut donc là une manifestation de la terrible colère de Dieu contre l'impiété et contre l'injustice des hommes, qui contribua à montrer la nécessité de la rédemption et concourut à l'avancement de cette œuvre. Cinquièmement, Dieu, voyez-vous, Dieu renouvela encore son alliance de grâce avec Isaac et Jacob, avec Isaac, et cela en ces mots. Il a dit: demeure dans ce pays-là, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai, et à ta postérité, tous ces pays-là, et je ratifierai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai ces pays-là à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Genèse chapitre 26, versets 3 et 4. Et ensuite, avec Jacob, quand Isaac agissait et parlant sous l'inspiration divine, le bénit, lui et toute sa postérité, que les peuples te servent, a-t-il dit, et que les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque te maudira, soit maudit, et quiconque te bénira, soit béni. Genèse chapitre 27, verset 28. Par conséquent, Ésaü, en perdant cette bénédiction, perdit aussi les privilèges de l'alliance de grâce. Cette alliance fut aussi confirmée à Jacob, à Bethel, dans la vision de l'échelle s'élevant jusqu'aux cieux, un symbole du salut par Christ. La pierre sur laquelle Jacob s'était endormi était un type de Christ. Le rocher de Jacob, sur lequel repose l'Israël spirituel, cela est évident parce qu'elle fut ointe et qu'on s'en servit comme d'un autel. Et nous savons que Christ est loin, il a été loin de Dieu, et il est le seul véritable autel. Pendant que Jacob est là, reposant sur cette pierre et contemplant l'échelle dans sa vision, l'Éternel se montre à lui comme le Dieu de l'Alliance et renouvelle son alliance avec lui. Dieu dit, « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. » Genèse chapitre 28, verset 14. Jacob avait donc obtenu une autre confirmation remarquable de cette alliance à Peniel, où il avait combattu avec Dieu et resta vainqueur. Christ lui apparut sous la forme de cette nature qui devait prendre plus tard pour l'unir personnellement à sa nature divine. Et Dieu renouvela encore son alliance avec lui, lorsque, après avoir quitté Paddan Aram, il fut venu à Bethel, où il avait eu la vision de l'échelle. Genèse chapitre 35, verset 10. Ainsi, dans ce temps-là, l'alliance de grâce a été renouvelée plus souvent qu'auparavant. La lumière de l'Évangile commença donc à devenir toujours plus éclatante à mesure que l'époque de la venue de Christ s'approchait. Sixièmement, il est dit, « Je ferai observer encore que Dieu, par le moyen de Joseph, sauva de la famine d'une manière très remarquable la famille de laquelle Christ devait sortir. » À l'approche d'une famine de 7 années, Dieu, par une dispensation admirable de sa providence, envoie Joseph en Égypte pour préparer de quoi vivre à Jacob et à sa famille afin de sauver la sainte semence qui, sans cela, aurait péri. Et c'est dans ce but que Joseph fut envoyé en Égypte, comme il le remarque quand il dit à ses frères, « Rappelez-vous, ce que vous aviez pensé en mal contre moi, eh bien Dieu l'a pensé en bien pour faire, selon que ce jour-ci le montre, afin de faire vivre un grand peuple. » Genèse chapitre 50, verset 20. Combien de fois cette sainte racine de laquelle devait sortir dans l'avenir une branche juste, c'est-à-dire le Rédempteur glorieux, n'a-t-elle pas été en danger d'être détruite? Mais Dieu l'a toujours conservée. Cette préservation de la maison d'Israël par le moyen de Joseph ressemble à plusieurs égards au salut par Christ. Les enfants d'Israël ont échappé à la mort par le moyen de Joseph, leurs parents et leurs frères. Celui qui sauve les âmes de l'Israël spirituel, de la famine spirituelle, et aussi, il est aussi leur plus proche parent, et n'a pas honte de les appeler frères. Joseph était un frère qu'ils avaient haï. Ils l'ont vendu et ils ont essayé même de le tuer, car ils avaient eu l'intention de le faire. Par nature, nous haïssons Christ, et par la méchanceté de notre vie, nous l'avons vendu pour les vanités de ce monde, et ceci par nos péchés, nous l'avons mis à mort. Joseph fut d'abord humilié, car, rappelez-vous, il a été esclave. Christ apparut sous la forme d'un serviteur. Il fut jeté ensuite en prison. Christ fut déposé dans le tombeau. Joseph, quand il sortit de la prison, il fut élevé à une très haute position. Il a été placé à la main droite du roi, comme son député pour régner sur tout son royaume, procurer de la nourriture et sauver la vie de tous ses sujets. Et Jésus-Christ de même, il a été envoyé à la droite de Dieu pour être le prince et pour être le sauveur de ses frères. Il reçut des dons pour les hommes, même pour les rebelles qu'il avait haïs et vendus. Septièmement, il y a eu ensuite, dans la bénédiction de Jacob pour son fils Judas, une prophétie qui touchait Christ, plus remarquable que toutes les précédentes, puisqu'elle montrait de quelle tribu il devait naître. Et quand Dieu appela Abraham, il lui révéla que le Christ serait de sa postérité, car bien que Abraham a eu plusieurs fils, il est révélé que le Christ serait de la postérité d'Isaac, et ses déterminations deviennent encore plus positives, car quand Isaac a eu deux fils, il fut révélé que le Christ serait de la postérité d'Israël. Et maintenant, bien que Israël a eu 12 fils, il fut révélé que Christ serait de la postérité de Judas. Christ est donc le lion de la tribu de Judas. La prophétie de la vocation des nations par suite de la venue de Christ semble être plus claire que celle qui ont précédé, à en juger par cette expression qui dit « À lui appartient l'assemblée des peuples ». Nous voyons comment cette lumière évangélique qui commença à poindre immédiatement après la chute de l'homme va toujours en augmentant en clarté. Huitièmement, Dieu poursuivit son œuvre de rédemption pendant cette période, en préservant admirablement les enfants d'Israël en Égypte. Alors que toute la puissance égyptienne était mise en jeu pour les détruire complètement, il semblait être entièrement au pouvoir des Égyptiens. Ils étaient leurs esclaves. Ils étaient soumis au gouvernement de Pharaon, qui avait résolu de les affaiblir par un rude esclavage, et quand il a vu que cela ne réussissait pas, il avait résolu de détruire leur race en ordonnant que chaque enfant mâle, rappelez-vous, devait être jeté dans le Nil. Mais en dépit de tout ce que Pharaon a pu faire, Dieu les sauva miraculeusement. Non seulement cela, mais il augmenta beaucoup leur nombre, de sorte que, au lieu d'être détruits, ils se multiplièrent beaucoup. Et neuvièmement, et ici remarquons que Dieu sauva non seulement la nation, mais il sauva également l'Église invisible, renfermée dans son sein au moment où elle était en danger d'être absorbée par l'idolâtrie égyptienne. La plus grande partie du peuple, malheureusement, s'adonna au culte de leur Dieu. Ézéchiel chapitre 20, versets 6 à 8, ainsi que le chapitre 23, verset 8. J'ai dit de Ézéchiel. Pour la troisième fois, l'Église de Dieu a été presque envahie, a été presque détruite par le monde méchant. Une première fois avant le déluge, une seconde fois avant la vocation d'Abraham, et maintenant en Égypte. Or Dieu pourtant n'a pas permis que son Église fût complètement détruite, il la préserva encore, comme il avait sauvé l'arche dans le déluge. Eh bien, il sauva Moïse au milieu des eaux, et cela dans une barque de joncs, alors qu'il courait le plus grand danger d'être englouti. Quelques-uns conservèrent la véritable religion, et Dieu a eu toujours un peuple parmi eux. Même dans ces malheureux jours de corruption et de ténèbres, les parents de Moïse étaient de très fidèles serviteurs de Dieu, comme nous le voyons par Hébreux chapitre 11, verset 23. Par la foi, Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses pères et mères, parce que c'était un très, très beau enfant, et ils ne craignirent point l'édit du roi. Chers amis, pour terminer cette étude, je viens de vous montrer comment Dieu a poursuivi son œuvre de la vocation d'Abraham à Moïse, et nous avons vu que plusieurs grandes choses ont été faites pour avancer cette œuvre, et qu'elle a fait des progrès encore plus marqués que dans les époques précédentes. Dans l'étude prochaine, nous devrons voir ensemble toute l'étude de Moïse jusqu'à David. Mais ce sera quelque chose de très long que je pense que je ferai en 2 parties. On verra. Pour le moment, nous allons terminer par la prière et je vous mettrai, s'il reste encore un peu de marge, 1 ou 2 chants de plus de 50 ans passés. Prions. Seigneur, qu'est-ce que l'homme mortel, que tu penses à lui et que tu l'éprouves à tout moment. Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu as usé de miséricorde envers nous et par tes soins continuels, tu as gardé notre esprit. Tu es le Tout-Puissant, on ne saurait te comprendre. Tu es grand et puissant en jugement et en abondance de justice. Ceux qui sont hypocrites dans leur cœur attirent sur eux la colère. Ils mourront dans leur vigueur, mais tu retires l'affligé de son affliction. Si tu donnes du repos au Dieu, qui est-ce qui le troublera? Oui, nous savons que notre Rédempteur est vivant et qu'il demeurera le dernier sur la terre. Attachons-nous donc à lui et demeurons en paix. Souviens-toi, Seigneur, que tu nous as formés comme l'argile. Appelle-nous et nous te répondrons, et tu prendras plaisir à l'ouvrage de tes mains. Amen. Et chers amis, vous le savez, Dieu vous aime, et je vous aime de tout mon cœur. Et maintenant, je vous embrasse avec tout mon amour, et soyez bénis. Et je essaye maintenant de vous mettre 1 ou 2 chants d'un très lointain passé, car en ce temps-là, il n'y avait pas de CD. J'avais fait cela avec un appareil à bande qui s'appelait le Revox. Alors essayons, si ça marche, on ne sait jamais.
Healing hand, healing hand, he can heal your body and soul. Healing hand, healing hand, have faith in him and he'll make you whole. He laid his hands on the blind. He healed the blind man and leper. There never was one so kind. He laid his hand on a dumb man. He made the dumb man whole. He laid his hand on a sick man and said, take up thy bed and walk. Healing hand, healing hand. He can heal your body and soul. Healing hand, healing hand. Have faith in him and he'll make you.
The wonderful Savior of men.
Sing how he died for our ransom, yet liveth in glory again.
Tell how his grace is sufficient, the world of lost sinners to save.
Tell how whoever believeth a perfect salvation shall have.
Wounded for our transgressions, treading the winepress alone. Brought as a lamb to the slaughter, Jesus the infinite one.
Shall we not praise him forever?
Worship his name and adore.
One of his most requested songs, Let Me Touch Him.
Let me touch him. Let me touch Jesus. Let me touch him as he passes by. Then when I shall reach out to others, shall know him, they shall live and not die. Oh, to be his hand extended, reaching out to me, oh, pray. Let me touch him, let me touch Jesus, so that others may know and be blessed. There's a river, a river flowing from within, and to cleanse my soul, and the flow sets my light to glowing. Holy Spirit, more than silver, more than gold. Oh, to be his hand extended, reaching out to thee, oh, pray. Let me touch him, oh, let me touch Jesus, so that others may know and be blessed.
Today, Henry Spencer sings for you, I Cannot Fail the Lord.
Lord of my life, he has never failed. On my own, I could never succeed. This one I came to know, there's so much I owe. Though I cannot fail the Lord, and things when done in his name are won. In the past I didn't trust God, I trusted in myself, but now I know I have his help, and I cannot fail my Lord. I cannot fail the Lord. I cannot fail. Has never failed me yet, and every problem he has met. Oh, I cannot fail the Lord.
I have been alone with Jesus, with my head upon his breast. Oh, I was so very weary that I waited there for rest.
I have been alone with Jesus. Thank you. God's waiting there. For it took away my trouble, and it took away my care.
Yeah.